Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 237e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 19 mars 2015 et au programme de ce soir de l'Indé avec la nouvelle série de Mark Millar Chrononauts, mais aussi plein de nouvelles séries indées, une très très grosse partie indé pour ce soir. Nous parlerons aussi de Marvel, la suite de Princess Leia, un numéro .1 de Amazing Spider-Man et la suite du crossover Black Vortex. Enfin, chez DC, nous parlerons de Superman, de Batgirl et de son one-shot Endgame, et enfin de Batman Eternal qui atteint son 50e épisode. Et comme d'habitude, à la fin de chaque partie, vous retrouverez la sélection des TPB sortis cette semaine. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics Weekly. Moi ce soir pour vous parler de toutes ces nouveautés, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour si vous m'écoutez le matin ou l'après-midi.
Mais aussi Mister René Benny.
Bonne nuit à tous si vous m'écoutez en pleine nuit au lieu de dormir parce que vous êtes insomniaque, bien sûr.
Peut-être que ta voix les endort.
Voilà, mais je pense que c'est la bonne solution, effectivement. Écoutez Comic City et faites de beaux rêves ensuite. Vous ne rêverez pas du tout de phallus géant turgescent.
Pourquoi
poilu.
Tu dis ça?
Pas du tout, pas du tout. Ça ne risque absolument pas d'arriver.
Non, parce que nous sommes des gens sérieux.
Non, mais voilà, exactement.
Et il fallait que tu places phallus dès le début de l'émission, quoi.
Voilà, il eut phallus placer ce mot.
Et oui, notre petit sketch d'intro, comme chaque semaine maintenant, une venue.
Hey, Raymond DeVos, c'est parmi
toujours
nous,
le même
mais...
thème, le sketch, toujours le même thème.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, quel manque d'originalité, mais quelle médiocrité.
On nous dit, ça tourne souvent tout en au-dessous de la ceinture, mais y a-t-il quelque chose au-dessus? Hormis
non,
les boobs.
Mais tu dis ça tourne en dessous de la ceinture. Avec quoi d'autre peux-tu faire l'hélicoptère, franchement?
Avec mes cheveux.
Bah oui, en plus avec plein de tes bras.
Mais l'hélicoptère, c'est ce dont il va s'agir, puisqu'on va parler de Chrononauts, un hélicoptère vers le passé.
Voilà, là, c'est vraiment capillotracté.
Oh là là, la transition la plus moisie de l'histoire.
Hein. Capillotracté, et oui, c'est ça le lien avec les cheveux de tout à l'heure.
Bon alors, Chrononauts, un titre hyper attendu. Le nouveau titre de Mark Millar au scénario avec Sean Gordon Murphy au dessin. Sean Gordon Murphy qui a également participé à la création du titre, hein, il est crédité comme co-créateur de ce titre. Une mini-série qui sera assez courte puisque il me semble que c'est en 4 numéros. Donc voilà, donc ça va être quand même un truc assez rythmé. C'est quand même court hein, 4 numéros. On va suivre en fait deux personnages, Corbin Quinn et Danny Reilly, qui sont deux potes, qui sont des scientifiques et qui veulent à tout prix trouver un moyen de faire des voyages dans le temps.
Qui n'aurait pas envie, c'est cool quand même.
Et c'est quand même cool de faire des voyages dans le temps. Et on va découvrir dans ce premier numéro qui va vraiment à 100 à l'heure, hein, c'est-à-dire que ce numéro se... Voilà, il se prend pas
non,
la tête
88 miles à l'heure,
à faire c'est encore plus précis. Il se prend pas la tête à faire une présentation vraiment détaillée des persos, c'est tu vas directement
bon,
dans
c'est l'action. C'est très très cinématographique hein, comme d'habitude, on a l'impression d'assister aux 20 premières minutes d'un film de science-fiction, voilà. C'est pas un film à la Michael Bay, c'est un film qui démarre vraiment en 20 minutes quoi, c'est pas une heure de présentation.
C'est une intro efficace. Voilà, ça commence avec une scène assez étonnante où on voit justement un des personnages principaux qui se déplace en Turquie dans les ruines d'un des temples les plus anciens du monde et va découvrir qu'à l'intérieur on retrouve un chasseur,
un
avion de l'armée de je ne sais quelle armée qui se retrouve à l'intérieur. Donc
de l'armée américaine, un F-14 Tomcat.
Ouais, F-14, voilà. Je suis pas un grand expert des avions.
Non, mais c'est dit dans le bouquin. Je vais pas faire style, je m'y connais trop. Non, c'est juste dit dans le bouquin, c'est tout.
Donc, on peut supposer qu'il y a des problèmes au niveau du continuum espace-temps. Et ce qui, justement, donne envie à ces deux héros de trouver un moyen de voyager dans le temps. Et surtout, en fait, on va se rendre compte, un peu comme dans Punk Rock Jesus, qu'il y a toute une partie média qui est hyper importante, puisque toutes leurs aventures sont médiatisées, diffusées en direct à la télévision.
Attends, tu m'étonnes.
Et
Tout comme, c'est un département de la NASA, c'est tout comme le premier pas sur la Lune, quoi.
Voilà,
ouais, c'est ça. Hein,
et à
c'est
la rigueur,
quand même un événement.
Ça me paraît tout à fait logique, finalement.
Oui.
Logique, oui et non, parce que finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on cacherait pas ça, genre, non, faut pas le dire.
À mon avis, ils attendraient de voir que ça fonctionne vraiment pour le montrer, parce que là, justement, ils s'y prennent peut-être un peu tôt, ce qui fait que la présentation. Et pas forcément au
ouais.
top, quoi.
Disons qu'en fait, dans le comics, vous vous rendrez compte quand vous le parcourez, ils ont moyen, en fait, de diffuser des images en direct de choses qui se passent dans le passé. Par exemple, la première tentative de voyage dans le temps se fait via un satellite. Et donc, on voit, on a une image à la télé qui diffuse ce qui se passe pendant la bataille de
Gettysburg.
Gettysburg, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, le truc assez fou, donc, t'as tous les Américains dans le présent qui sont devant leur télé. C'est encore plus impactant que le premier pas sur la Lune.
Surtout pour les Américains, quoi, Gettysburg.
Ouais, mais ça c'est le vieux rêve qu'on a tous en regardant les étoiles et en se disant qu'elles sont déjà éteintes depuis bien longtemps et pourtant on les voit encore maintenant. Donc par un phénomène de comment dire, comme dans un miroir quoi en fait, un petit peu une espèce de miroir temporel de voir comme ça en reflet ce qui s'est passé des années avant sur Terre. On peut imaginer qu'un tel processus, même si ça semble complètement abracadabrant à l'heure actuelle, pourrait être réalisable et pourrait un jour se concrétiser hein, et qu'on pourrait voir des vieux événements comme ça
Ah mais moi j'adorerais quoi, j'adorerais voir l'histoire directement quoi, ce serait
voilà, c'est ça, ouais.
Voyager
sur
dans
Discovery
le temps,
Channel
sans rien changer, juste voyager dans le temps et voir à quel point
c'est ça,
comment étaient les
c'est
choses
ça.
Quoi.
Et d'ailleurs en fait je parle de ça parce que justement je pensais à la lecture des premières pages qu'il s'agissait simplement de ça, au fait, qu'il s'agissait simplement d'un processus pour voir les choses dans le temps, mais que eux, les deux personnages principaux, ne pouvaient pas forcément se déplacer dans le temps.
Bah, en même temps, avec le tome 4 dans le temple dès la première page,
oui,
on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait passer, quoi.
C'est vrai, on se doutait qu'il allait avoir un quick quelque part. De toute façon,
peut-être un McDo aussi.
Oui, je sais pas si à l'époque, justement, il y avait l'un ou l'autre. Un Burger King peut-être, je ne sais pas.
En tout cas, il y a un côté très commercial justement à ce qu'ils font, puisque
transition Bruno.
On les voit donc les deux héros qui se font énormément de publicité en narrant leurs exploits et limite avec des conférences de presse de fou, on dirait des rockstars.
Bah t'as les chaînes qui sont nommées hein, les vraies chaînes.
Ouais.
Et plein de choses.
Il y a plein de petits clins d'œil au niveau des dessins, hein, les dessins qui sont très très bons hein, de Sean Gordon Murphy. On voit par exemple une DeLorean sur une page où on voit qu'ils avaient réfléchi à différents moyens de pouvoir voyager dans le temps. Et finalement, ils ont trouvé un système qui est assez original au final. On va pas le révéler, mais qui...
Porte des étoiles.
Oui, alors il y a un peu Stargate, il y a un petit côté Stargate, effectivement.
Non, mais justement, là où le bas blesse, moi je dirais que... c'est très bon, c'est très prenant, ça va à 100 à l'heure, franchement on passe un bon moment à lire ça, mais alors qu'est-ce que c'est cliché quand même,
ouais,
il n'y a pas beaucoup d'idées novatrices,
mais y a pas beaucoup
on peut pas dire que ce soit très original.
Il y a plein de clins d'œil, regardez cette page où ils font l'annonce quand ils vont voyager dans le temps, on voit sur la scène à côté tous les trucs qui permettent de voyager dans le temps de la pop culture,
ouais.
De L'Oréal, la cabine
oui,
de Doctor Who,
c'est Marc Millar. Donc forcément,
oui,
il va se faire plaisir en référence pop culture. Hein,
c'est le talent de Sean Murphy d'arriver à
bien
mettre tous ces détails visuellement.
Ouais.
Oui, puis
ouais.
Il y a quand même deux trois petites scènes qui placent un peu le caractère des personnages. Quoi. On voit un peu quelle a été leur vie avant.
Mais justement, c'est le point faible j'ai trouvé de cette lecture.
Ça prend quelques cases.
Mais c'est le côté vraiment cliché de la vie des personnages, surtout celui qui a comme par hasard une nana qui s'occupe qui travaille dans un hôpital et qui
son
du
ex.
Coup a d'autres priorités on va dire
son
dans
ex.
La vie oui voilà son ex et puis il y a l'espèce de fausse l'appel à son ex copine pour lui dire au revoir parce que peut-être
c'est limite des codes
c'est cliché,
du film
moi,
d'action
ça.
Quoi
mais j'ai trouvé ça tellement cliché. Ouf. Ouais enfin voilà on n'a pas la même notion d'efficacité
c'est du Marc Millar, tu t'attendais à mieux?
Ah bah oui, parce que après Starlight, je m'attendais à mieux. Et...
Non, mais à ce moment-là, après Supérieur, on s'attendait à mieux. Après, enfin, à chaque fois, il te fait un truc super chiadé, et après, il te sort un truc vachement moins bon.
C'est dommage. Parce que Chrononauts, j'ai passé un bon moment avec. Alors putain, en français, ça sonne un peu moisi, hein, ce titre. Mais j'ai passé un bon moment avec. Mais juste que bon, il y a certains passages où c'est vraiment le gros cliché bien grave.
Qu'est-ce que tu trouves moisi à Chrononauts? Enfin, un voyageur dans les étoiles, un astronaute, un voyageur dans le temps, un Chrononaut, quoi. Enfin, ça me paraît logique.
Ah non, la manière dont ça sonne, au fait. Chrononaut, ça fait un peu gros nono, gros nonautes, je sais pas, enfin, ça sonne bizarre. En français, oui, chrononautes, ça fait un peu court, quoi. Je sais pas, ça sonne bizarre.
Mais bon, voilà, donc après, bien sûr, effectivement, les deux personnages principaux vont partir dans le temps et ça va pas se passer comme prévu. Et,
ouais, bah,
et on, ça se termine avec un petit cliff pas super original, oui. Mais on est à fond dans l'action.
Efficace.
Et moi, j'ai trouvé vraiment le titre très plaisant. Ça se lit effectivement d'une traite. C'est comme tu dis, c'est comme un script pour un film, mais avec des très beaux dessins de Murphy, ça passe tout seul. Donc voilà, quand même un bon numéro.
Un bon bail, hein, franchement.
Ouais, un bon bail, clairement. À noter que pour l'occasion, il y a quand même eu plus de six couvertures variantes aussi. Donc c'est un gros titre, hein, pour Image. Et toi, Benny, ta note?
Bah ouais, un bail, pareil, un bail. Alors peut-être moins enjoué que vous, mais un bail néanmoins. Voilà, j'ai passé un bon moment, même si il y avait quelques petits clichés dans cette narration. Mais bon, c'est du Mark Millar, donc effectivement, voilà, ça passe quoi.
Allez, autre série chez Image qui sort cette semaine, nouvelle série évidemment, premier numéro, encore de la science-fiction, il va y en avoir un paquet cette semaine de science-fiction, j'ai l'impression d'avoir lu que ça. C'est aberrant. Invisible Republic, écrit par Gabriel Hardman et Corina Becco, avec des dessins de Gabriel Hardman, une colorisation de Jordan Boyd. On est en 2843 sur une planète qui s'appelle Avalon, qui est vraiment vraiment super loin, et un reporter type Ben Urich est en train d'essayer de faire un sujet sur la chute d'un politicien qui était au pouvoir, et depuis la chute de ce politicien, les choses ont vraiment dérapé. Plus de police, plus de services gouvernementaux, plus rien. C'est véritablement la déchéance. Il essaye d'avoir les réactions des locaux, mais se retrouve un petit peu face à un mur vis-à-vis des locaux. On le sait par le biais de la narration qu'il a réussi à produire de bons livres dans le passé, mais il est actuellement à la recherche d'un nouveau sujet. Et finalement, il va tomber sur un manuscrit qui allait être brûlé par un SDF qui avait besoin de se chauffer, récupérer ce manuscrit, et découvrir que finalement, ce dictateur qui est tombé, on ne connaît peut-être pas si bien son histoire que ça. Et en fait, on va suivre cette double narration, cette narration du passé, où il va lire ce manuscrit, et comprendre que les choses qui se sont passées ont peut-être un tout autre sens, et les personnes qui ont accédé au pouvoir il y a quelques années ne sont peut-être pas celles que l'on croit. Et en même temps, sa quête à lui pour essayer de faire éclater la vérité dans ce monde qui n'a pas envie de la voir, puisque traumatisé par la chute de cet ancien gouvernement. C'est véritablement de la science-fiction politique. C'est vraiment prenant, c'est un thriller science-fiction politique, hein, qualifié comme ça directement par les auteurs. C'est vraiment bien foutu, j'ai envie de lire la suite. C'est vraiment prenant, voilà, un thriller science-fiction. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément souvent. On a de la science-fiction, on a du space opéra, on a des choses comme ça. Là, celui-ci est plutôt bien avec ce côté politique. Donc moi, franchement, c'est un bail pour moi. J'ai vraiment bien aimé cette lecture. C'est voilà, on est pris entre deux époques et on va découvrir peu à peu ces personnages-là. Donc ouais, vraiment, si vous avez envie de tester quelque chose de frais, de neuf. Faites-vous plaisir. En plus, visuellement, c'est assez propre. Les passages du passé sont vraiment plus clairs, plus lumineux. Les passages du présent, où on est vraiment dans une société en pleine déchéance, c'est beaucoup plus sombre. Non, franchement, c'est nickel. Un bail pour moi. Benny, tu passes à quelque chose chez IDW, quelque chose qui va secouer le monde. C'est la sortie de Tortue Ninja numéro 44.
Ouais, alors Kevin Eastman est au scénario, Bobby Conroe également, mais c'est surtout là au fait le scénario de cet épisode, c'est surtout Tom Waltz qui s'en occupe, avec des dessins de Corey Smith et une colorisation de Rhonda Pattison. Donc on est dans la quatrième partie d'un arc qui s'appelle Attack on Technodrome. Donc vous doutez bien quel est le sujet de cet arc, hein, avec ce titre.
Baxter.
Quoi?
Baxter, la mouche.
Ben en plus, t'as pas tort puisqu'il est dès la deuxième page.
Qu'est-ce que je suis fort.
Ouais, voilà, c'est ça. Non mais au fait, il y a tous les personnages qu'on a connus et même plus encore dans ce dessin animé. Parce que moi, il y en a d'autres que je reconnais pas forcément, mais en même temps qui ont dû apparaître dans des épisodes ultérieurs. J'avais déjà arrêté de regarder la série. C'est une série très très longue.
Ou peut-être même dans la création à travers le comic. Hein.
Exactement, exactement. Donc, les Tortues Ninja, prennent d'assaut le Technodrome, essayent de renverser Krang. Vont-ils y parvenir, sachant que de son côté, Donatello est un petit peu tout seul face à Bebop et Rocksteady. Hein, donc, ces deux crétins, pour bien les mentionner. Et puis, il va y avoir un certain nombre de retournements de situation, ça va vraiment secouer le statu quo cet épisode. Il va se passer des choses très très importantes pour les Tortues Ninja, pour cette mythologie des Tortues Ninja. C'est un épisode à 100 à l'heure, bourré d'action, avec pas mal d'humour aussi, hein, c'est toujours assez fun à lire. Et puis, quand même du drame, il se passe quand même quelque chose qui va marquer les fans des tortues, et visiblement, on apprend que le numéro 50 devrait être le dernier numéro, puisque c'est marqué que le numéro 50 sera le grand final. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par grand final, est-ce que c'est le final vraiment de la série, ou est-ce que c'est le final de toute cette intrigue. Moi je pense malheureusement que c'est le final de cette série, en tout
d'après
cas,
ce que je lis, c'est le final de la série, hein, puisque là voilà. Se termine l'arc Attaque sur le Thunderdome, et on arrive au dernier arc de la série qui va mener au 50, qui sera un numéro double size. C'est ce qui est écrit, en tout cas. Voilà. C'est comme ça que je le comprends.
Mais en tout cas, c'est vraiment un titre qui, depuis le début, est super agréable à lire. C'est dommage que la parution en France se soit arrêtée, parce que vraiment, c'est une série qui mérite
une valeur sûre.
Le détour. Ouais, c'est une valeur sûre. C'est vraiment du très très bon comics. Et puis qu'on était fan des Tortues Ninja ou pas, franchement, ça se lit très très bien, c'est très prenant. Non, un très bon bail pour cet épisode.
À noter que IDW va sortir de belles éditions luxe, hein, pour les TMNT version moderne, et ouais. Ça pourra faire une belle collection effectivement.
Carrément, carrément. En tout cas, moi, ça m'intéresse grandement de récupérer du coup l'intégralité de cette série sous cette forme.
On continue avec du Image, on y retourne. Alex Plesada numéro 13 est sorti, toujours Jonathan Luna qui fait tout et Sarah Vaughan qui l'aide pour l'histoire. Et un petit mois de pause, hein, pour cette série, c'était tellement long, cette attente tellement long. Eh bien, Alex va devoir gérer un petit peu avec les derniers événements et notamment la mort de sa grand-mère.
La fameuse grand-mère, avait fait ce cadeau au début.
Tandis qu'Ada va, elle, essayer de gérer un peu avec ses émotions qui l'ont prise, notamment le fait qu'elle ait eu envie de tuer cet homme qui l'a attaqué. Elle a du mal à comprendre toutes ces émotions nouvelles. Et surtout, la situation va vraiment s'envenimer pour eux, puisque, ça y est, le gouvernement a lancé un véritable assaut contre les robots qui ont des sentiments, tout simplement. Un assaut qui va foutre Alex et Ada dans une merde pas croyable. Vraiment, toujours excellente série. Je vais pas m'attarder dessus, hein. J'ai rien de mieux à dire que c'est excellent. Encore une fois, c'est une série qui est belle, qui fait réfléchir, qui est de la science-fiction. Oui, parce qu'on est dans le futur avec des robots, etc. Mais on est aussi dans la romance, on est aussi dans de l'aventure, de l'action. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, une série absolument à découvrir pour ceux qui n'auraient pas encore sauté le pas. J'espère qu'elle arrivera en français un jour pour que vous puissiez profiter de ce petit bijou qu'est cette série. Donc un gros bail, évidemment. Début, en quelque sorte, d'un nouvel arc. Hein. On passe à toi, Bruno. On reste chez Image avec Secret Identities numéro 2, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. C'est écrit par Jeff Harber et Brian Jones, avec au dessin Ilias Kyriazis, et à la colo Charlie Kirchhoff et Ron Riley. Un numéro 1 qui m'avait beaucoup plu, et je crois que d'autres personnes l'avaient lu dans l'équipe, mais enfin, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, c'était un très bon premier numéro, et la suite est de même acabit, puisque ça reste vraiment très passionnant. On va suivre toujours ce groupe de super-héros qui est justement infiltré par un super-héros qui normalement aimerait détruire l'équipe. Il a été engagé par quelqu'un pour pouvoir détruire justement cette équipe de super-héros, et
Il n'y a
il va
pas
essayer.
un retard sur ce titre, parce que j'ai l'impression que tu en avais parlé effectivement, mais il y a
Ah non,
plus d'un
c'était il
mois.
y a...
Non,
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 c'était
c'est
le
il y
mois
a pas très
dernier,
longtemps.
Secret
Le mois
Identity.
dernier, ouais. Et il essaye de détruire l'équipe de l'intérieur en dévoilant leurs secrets, en apprenant toute leur pourriture, quoi, toutes les choses qu'ils font et qu'ils cachent au monde entier. Et c'est vraiment très rythmé. Il y a pas mal d'actions. Là, les personnages sont un peu plus développés. On voit leurs différents caractères. Et en filigrane, en plus, on voit venir une menace galactique assez impressionnante qui risque de venir s'abattre sur la Terre. C'est vraiment cool en fait. On a des archétypes de super-héros classiques. On a un personnage qui ressemble clairement à Batman, qui est milliardaire, qui vit dans un manoir, qui n'a confiance en personne, et qui justement se doute que cette personne qui vient d'infiltrer l'équipe est peut-être pas la personne qu'elle prétend être. Et bah voilà, ça joue un peu sur les clichés en même temps, et c'est très très bien écrit. Donc voilà, une bonne lecture super-héroïque. C'est difficile de faire du comic super-héroïque, on va dire original, et là c'est plutôt sympa. Donc pour moi c'est un bon bail, ce numéro.
On va passer chez Dark Horse maintenant avec le nouveau bébé de Mike Mignola, toujours de l'univers de Hellboy. Il s'agit de Frankenstein Underground. C'est une mini en 5. Donc c'est Mike Mignola au scénario et un dessin de Ben Steinbeck avec une colorisation de Dave Stewart. On va suivre donc le personnage de Frankenstein de cet univers de Mike Mignola. Frankenstein qui est en fuite, qui est quelque part à Mexico en 1956. Ça rappellera des souvenirs à des lecteurs de Hellboy, évidemment. C'est fait pour. On n'a pas besoin de connaître Hellboy et d'avoir lu l'histoire avec Frankenstein pour comprendre et apprécier cette série. Mais si on l'a lu, c'est juste un petit plus, ça étoffe un peu la mythologie, voilà. Frankenstein, avec une balle dans le torse, erre un petit peu au milieu de la jungle du Mexique, et va tomber sur un espèce de temple où une sorcière va le guérir. Une sorcière qui a tendance à vénérer les anciens dieux. Et on va découvrir en même temps pas mal de choses de la vie du passé de Frankenstein, et surtout que quelqu'un, un marquis de France, le marquis Adoué de Fabre, voilà, c'est son nom, qui vit dans la super ville très connue en France, hein, qui s'appelle Ableban ou Ableben, je ne sais pas.
Oui, je passais mes vacances là-bas quand j'étais petit.
Ouais.
J'ai beaucoup connu ce marquis, effectivement, qui avait de drôles demeures.
Ça aurait été bien de mettre une vraie ville, mais enfin bon. Qui a envie de traquer ce Frankenstein parce que c'est quelqu'un qui collectionne apparemment les artefacts magiques, les choses magiques comme ça. Et ce Frankenstein, il l'attire profondément. Il va donc forcer certains de ses
Comment
serviteurs
ça, il
à...
l'attire profondément?
Il a envie de l'avoir dans sa collection, quoi.
Ah, d'accord.
Il va forcer donc certains de ses serviteurs, pardon, à se mettre en chasse. Franchement, j'ai pas trouvé ça sensationnel. Je vais être honnête, c'est sympa, hein, c'est très joli. Visuellement, c'est très propre, si tant est qu'on aime le style de l'univers de Mignola. Mais j'ai pas trouvé ça sensationnel du tout. À tel point que je pense que je n'irai pas lire le 2. Voilà. Je lirai ça peut-être en TP quand ça sortira, mais je vais pas lire ça en single. Je m'en fous un peu de ce qui pourrait arriver à Frankenstein. Voilà. Ça m'a
Sans
pas de
plus.
masse séduit, quoi. Donc je vais mettre un check-it. Visuellement, c'est très propre. Au niveau de l'histoire, ça m'a pas interpellé plus que ça. Alors peut-être est-ce que j'ai moins d'attachement au Frankenstein de l'univers de Hellboy. Je n'avais pas lu ces histoires-là. Je connais leur existence, mais je ne les ai pas lues. Mais bon, voilà, je check-it, quoi. On continue avec toi, Benny. IDW maintenant. X-Files, saison 10, numéro 21.
Avec Joe Harris au scénario, Matthew Doe Smith au dessin, avec une colorisation de Jordi Belair. Eh bien, c'est la première partie d'un arc assez important qui s'appelle Elders. Voilà, on retrouve un personnage dans l'ombre, un personnage mystère qu'on avait pu apercevoir déjà dans les premiers épisodes de cette série, ou en tout cas
Je
il y
me
a quelques
demande
numéros
bien
de
qui
ça.
c'est.
Un personnage à lunettes. Non, non, mais un personnage à lunettes, on ne sait pas du tout qui c'est, il est dans l'ombre. Et toujours est-il qu'il a il a apparemment beaucoup de pouvoir, puisqu'il a ressuscité, au fait, ce groupe de personnes dont l'homme à la cigarette, hein, voilà, ce groupe de conspirationnistes. Et apparemment, il a le droit de vie et de mort, d'ailleurs, sur ce groupe. Et puis, on retrouve Mulder et Scully dans une fête foraine. Alors, je ne sais pas tellement ce qu'ils foutent là, mais bon, ça a l'air sympa, voilà. Une fête foraine l'après-midi, bon, bah voilà, c'est cool. Le seul problème, c'est que Mulder croise une femme qui apparemment le connaît, qui commence à tirer sur la foule, qui descend des gens, avant d'essayer de descendre Mulder, puis finalement, elle retourne l'arme contre elle et se suicide. Et cette femme mystérieuse, eh ben, on comprend que Mulder l'a déjà rencontrée par le passé. Qui est-elle? Quel est son but? Eh bien, tout cela nous est raconté dans cet épisode, ou en tout cas en partie, avec beaucoup de mystères, hein, beaucoup de mystères. Elle ne devrait pas être là où elle est, d'ailleurs, cette femme. Donc voilà, donc c'est vraiment un très très bon épisode, très intriguant, et bon, toujours une très très bonne série, encore une fois, comme les Tortues Ninja. On n'a pas du tout une exploitation de licence bête et méchante, c'est vraiment... ça pourrait faire office d'épisode d'X-Files, quoi, concrètement.
Non, en même temps, c'est le but, hein, c'est saison 10, donc c'est censé être...
Oui, mais c'est ça, mais on pourrait avoir de mauvaises surprises.
Bien sûr, mais un peu bancales, on a eu des mauvaises surprises, mais c'est censé quand même être la suite de la série, qui certes n'est pas à la télé, mais au moins en comics, quoi. Donc ça doit avoir un minimum de qualité.
Ouais, bah ça fait très bien le job, et franchement... Encore un titre qu'on n'a pas sous nos latitudes en France, et c'est bien dommage, parce que c'est pareil, c'est vraiment un titre de qualité, et voilà. Et il me tarde de lire la suite de cet arc. Donc un très bon bail aussi pour X-Files saison 10.
Allez, je retourne chez Dark Horse, et oui, encore de l'indé, encore par mois, j'ai lu énormément d'indé cette semaine, et encore de la SF. Et oui, et décidément, il n'y a que ça en indé, en tout cas cette semaine, moi je n'ai lu que ça. Shaper numéro 1, c'est écrit par Eric Eisserer, illustré par Felipe Massaferra, avec une colorisation de Wes Dzioba. On est dans un monde assez étrange. On n'a pas vraiment la notion de sur quelle planète on est. Il y a des extraterrestres, etc. Et on apprend qu'il y a une guerre, notamment cette puissance au pouvoir dont je ne retrouve pas le nom, malheureusement. Ça va me revenir dans deux petites secondes. C'est très pro.
Oui, nous rétablissons la connexion.
Le califat, voilà, le califate, qui traque tous les shapeshifters, donc tous les métamorphes, une espèce de race extraterrestre qui donc peut prendre la forme qu'elle désire, et surtout qui, certes, au début n'avait quasiment pas de pouvoir, mais qui transmet toutes les formes acquises d'une autre vie extraterrestre dans son code génétique. C'est-à-dire que c'est expliqué au début du comic, c'est un peu comme apprendre un langage, ça met un peu de temps, mais une fois qu'ils ont saisi la forme, cette forme passe dans le code génétique, et donc les shapeshifters qui naîtront par la suite auront cette forme à leur disposition dans leur mémoire génétique. Donc une race qui, plus le temps avance, plus elle est balèze, quoi. Et elle est traquée par le califat. Enfin, on sait pas trop, parce que apparemment c'est devenu surtout un jeu de cartes, c'est devenu une histoire, une légende qu'on raconte, et ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas entendu parler de shapeshifters et tout ça, donc les gens commencent à croire que c'est finalement pas grand chose. Puis on va suivre un jeune qui travaille dans une école. On apprend très vite, hein, c'est un enfant abandonné qui n'a pas vraiment beaucoup de perspectives d'avenir, qui risque de s'engager dans l'armée pour au moins faire quelque chose et avoir la sensation d'avoir une famille. Et peut-être est-il un des derniers shapers en vie, un des derniers shapeshifters. Vous vous en doutez, hein, de la réponse. C'est plutôt pas mal foutu, cette icône qui traque, hein, les shapeshifters, ce fameux Ajax. À une armure, une espèce d'armure à moitié samouraï, à moitié mecha. C'est vraiment bien foutu, on sent qu'il y a un univers, et surtout, qu'est-ce qui va donner envie à ce jeune de combattre le califat? Je vous laisse découvrir tout ça. J'ai bien aimé, c'est pas novateur, c'est pas grandiloquent, c'est pas le meilleur comic que j'ai lu de ma vie, ni même de cette semaine, mais c'est bien divertissant. On a une longue post-face du scénariste, hein, Eric Eisserer, qui explique que c'est quelque chose qu'il avait écrit pour un film au départ, Et voyant que ce film ne voulait pas se faire, de par la propension d'Hollywood à vouloir que des nouveaux projets, mais à ne pas oser les mettre en route parce que bah ça coûte trop d'argent et on ne sait pas si ça va marcher, s'il n'y a pas au moins une ligne de jouets, s'il n'y a pas eu des dessins animés, s'il n'y a pas eu plein de choses autour avant qui montrent l'engouement envers cette nouvelle licence, s'est tourné vers le comic, pensant peut-être que ça pourrait donner vie à son script au cinéma. Et en fait, aujourd'hui, il s'en fout que ça fasse un film. Si ça fait un film, tant mieux, mais il est véritablement content du résultat. Eric Heisserer avait notamment travaillé sur alors des choses qui n'ont pas forcément que bonne presse, hein, mais il avait réalisé, il avait en tout cas co-scénarisé le remake de The Thing. Vous savez, ce qui est sorti en 2012.
Ah oui,
hein,
oui,
de,
oui,
voilà.
Vous n'avez pas vu
le,
ça.
Destination finale numéro 5, le remake de Freddy aussi.
Que des chefs-d'œuvre, que des chefs-d'œuvre. Ouais, c'est trois grosses bouses, hein, quand même.
Pas forcément des chefs-d'œuvre, effectivement.
Ah, ouais. Mais les trois, là, sont terribles. Il y en a pas un de réussi. Je dirais peut-être le moins pire, Destination Finale 5, parce que c'est toujours fun, tellement c'est con, mais pitié, quoi. Le remake de The Thing, quelle horreur. Et le remake de Freddy, je croyais encore pire.
Effectivement, bon, en même temps, ça reste un scénariste, donc peut-être que son travail a été un petit peu changé au moment de la réalisation du film.
Hein. Ça reste un homme.
En tout cas, c'est son premier travail en termes de comics. Moi, j'ai trouvé ça plutôt réussi. J'ai envie d'aller voir la suite. Voilà, c'est de l'action. Ça tape dedans un peu. Si vous avez aimé Chrononauts, il y a de fortes chances que ça vous plaise aussi. Hein. Je parle de l'action dans Chrononauts. Voilà, on perd pas trop de temps. Les personnages sont bien établis. Normalement, c'est prévu pour être une mini en 4. Voilà, j'irai voir la suite en tout cas. J'ai envie de dire un petit bail, quoi. Ça m'a bien diverti. Et finalement, c'est ce qui compte, quoi.
Verti.
Oh putain, je comprenais pas la vanne. Ouais. On passe à toi, Bruno. Giant Days.
Oui, un nouveau titre dans la gamme Boombox, donc c'est chez Boom. C'est créé.
J'espère que ça fait de la musique. Hein.
C'est créé et écrit par John Allison et illustré
Boombox,
par
Boombox.
Lisa Tryman. C'est un titre très Jones, on va dire, très frais, qui va s'intéresser.
Jojo, wesh.
Hein,
ça va ma gueule.
ça va s'intéresser à un groupe de trois jeunes filles qui viennent d'entrer à l'université et qui après trois semaines dans leur nouvelle université, bah on finit par bien s'entendre et puisqu'elles sont dans des chambres qui sont côte à côte. Donc on a une nana un peu gothique, on a une nana qui est un peu plus naïve et qui croit un peu tout ce qu'on lui dit, et on a l'intello de service qui est celle qui a le plus de sens commun et tout, et qui est un peu la chef de gang. Et on va suivre leur pérégrination justement à l'université, et c'est très sympa à lire, très agréable, pas mal d'humour, il y a une bonne dynamique entre dans ce trio, et en fait il va y avoir un petit facteur extérieur qui va arriver, à savoir un personnage qui va débarquer à l'université, qui a un passif avec une des héroïnes, et qui va semer justement la pagaille, et on va découvrir petit à petit quels sont les secrets justement sur ce personnage. Voilà, c'est vraiment très sympa à suivre. Les dialogues sont très fun. Graphiquement, c'est très joli, hein, c'est très très propre. Il y a pas mal de petits détails, de petites mimiques, et de c'est très très sympa. Voilà, c'est un peu comme du Scott Pilgrim. Sans les références geek à tout bout de champ, c'est plus on va dire effectivement comme un peu la scène indé du cinéma jeune.
C'est peut-être un peu moins déjanté aussi quand même.
C'est moins déjanté aussi, mais ça se franchement c'est une bonne surprise, et j'ai trouvé ça vraiment très propre au niveau du dessin. Donc pour moi c'est un bon gros check-it.
Le dessin est comment? Parce que les produits Boombox en général sont pas forcément toujours avec des dessins faciles à accepter ou à regarder.
Non, là c'est vraiment c'est très cartoony, effectivement c'est assez proche de ce que fait Babstar sur Bad Girl, voilà, si ça peut te donner une petite idée
d'accord.
Du style. Voilà, avec des visages très expressifs.
Ouais, ça fait aussi penser, dans la manière dont on parle, ça fait un petit peu penser à du Gotham Academy, non?
Ouais, aussi, un petit peu. Mais voilà, avec des personnages un peu plus âgés, puisque là, c'est vraiment des jeunes adultes, et on les voit un peu avec leurs galères, aussi bien dans leur vie sentimentale que dans les problèmes avec la fac. Donc voilà, c'est très frais.
Et c'est une mini en 6, hein, je
mini
crois.
Mini en 6, ouais, tout à fait.
Continuons avec une autre mini chez Valiant, cette fois-ci Divinity numéro 2, encore de la SF. Il y a que ça cette semaine, c'est fou. De la SF, donc 2 sur 4, hein, puisque c'est une mini en 4. Toujours écrite par Matt Kint avec des dessins de Trevor Ersine et un ancrage de Ryan Wynn. Une colorisation de David Baron pour être totalement complet. On continue de suivre les pérégrinations de cet astronaute, enfin ce cosmonaute, puisqu'il était russe, qui était parti pour la mère patrie explorer le fin fond de la galaxie pour une mission de 30 ans, qui finalement est revenu 20 ans plus tard en Australie. Et avec des pouvoirs apparemment divins. On savait pas trop où ça allait. Enfin, moi, c'était un peu le reproche que j'avais.
Ouais, moi aussi. C'est pour ça que j'hésitais à lire la suite. Et puis finalement, je suis parti sur autre chose.
Et j'ai envie de dire, j'ai failli abandonner la lecture en cours de route tellement ça commençait à me casser les couilles. Parce que on ne savait pas où ça allait vraiment. On parle encore de quelqu'un qui... Enfin, c'est vraiment vu d'un point de vue de quelqu'un qui va le retrouver, qui s'avère être quelqu'un qui faisait partie de la mission originale, hein, celui qui avait aidé à lancer cette fusée dans l'espace, qui est donc tout vieux maintenant, hein, et qui, sachant qu'il est revenu, a décidé d'aller le rejoindre et un petit peu raconter son histoire. En tout cas, c'est ce que... c'est ce que cette nouvelle divinité lui donne comme un peu comme ordre, ou en tout cas comme suggestion d'aller raconter un peu ce qui lui est arrivé. Et je me dis, mais putain, mais ça va où, quoi? Ça commence à me saouler, ça va nulle part. Et heureusement, il y a les dernières pages qui nous intègrent ça totalement à l'univers Valiant, et ça prend un second souffle. Heureusement, il était temps. Il était temps parce que j'allais abandonner, en fait. Et donc, je vais pas révéler ce qui se passe, du tout, à vous d'aller voir, mais en tout cas, ça a un lien véritablement avec l'univers Valiant, et heureusement parce que quelque chose de complètement déconnecté n'avait pour moi aucun sens dans l'univers Valiant, pour le moment en tout cas, pour un univers qui s'établit. Donc c'est plutôt intéressant, finalement j'irai voir le 3, de là dire que c'est un bail, vraiment non, je me suis quand même sacrément fait chier tout au long. C'est contemplatif, mais à un point qui devient pénible. Donc je vais mettre qu'un check it, mais j'ai hâte d'aller voir le numéro 3 en espérant que ça remonte vraiment de niveau. Donc voilà pour moi un check it, et on termine notre très longue partie indé avec toi, Mister Anibony, qui nous parle du Sons of Anarchy numéro 19.
Voilà, donc par Ryan Ferrier au scénario et Mathias Bergara, au dessin. Avec une colorisation de Paul Little. Et donc, Sons of Anarchy qui reprend le thème donc de cette série télé bien connue, mais avec des épisodes qui se situent, alors je sais plus où exactement, en plus je les ai regardés il y a pas longtemps, là je suis dans la saison 7, c'est avant la saison 7, on est plutôt aux alentours de la saison 6 me semble-t-il, puisque Bobby est en prison. Pas le Bobby
si ma mémoire
de Dallas,
est bonne, hein. Parce que je n'ai pas suivi cette série en comics, mais si ma mémoire est bonne, elle avait été lancée, quand elle avait été lancée en tout cas, elle était censée faire un peu le pont entre la saison 5 et la saison 6, mais je ne sais pas si depuis l'histoire a avancé au point de passer entre la saison 6 et 7 par exemple.
Bah en tout cas Bobby est toujours en prison et j'arrive pas au fait à me rappeler quand est-ce qu'il en sort. Toujours est-il que là, au fait, le thème de l'épisode, c'est simple, hein, Jax lui rend visite en prison, et lui dit qu'il a eu la visite de... Alors je crois que c'est son neveu, en tout cas c'est quelqu'un de la famille de Bobby, qui veut devenir un prospect, un disciple, enfin je sais pas comment le traduire en français.
Comme un stagiaire,
en
réalité, presque.
Une espèce de larbin, voilà, c'est un petit peu le petit larbin, le jeune padawan de ce club de motards, hein, comme on peut le voir souvent dans la série. Toujours est-il que,
ces prospects qui sont en général équivalents des red shirts, hein, dans l'univers de Star Trek, en général ils crèvent très vite.
Voilà, en général, soit ils crèvent très vite, soit ils font aussi un maximum de conneries et de dégâts. Et là, c'est la deuxième solution. Donc son pseudo, c'est Spunky d'ailleurs. Hein, on imagine un petit peu, enfin on peut imaginer un petit peu pourquoi, enfin d'où ça sort ce pseudo. Toujours est-il qu'il est, il est un peu tête brûlée. Hein, il rentre dans tout ce qui bouge. Du coup, il va foutre tout le club dans le caca, concrètement, puisqu'il y a un deal qui est en passe d'avoir lieu avec les Mexicains, et lui va se fighter avec l'un d'entre eux qui fait un trafic de drogue, et non seulement il va le foutre dans un sale état, mais en plus il va lui piquer toute sa drogue. pour la ramener fièrement aux Sons of Anarchy, qui sont désespérés de voir ça. Et donc voilà, donc ils sont dans une mauvaise posture à cause de cette jeune recrue. Et les choses, on s'en doute, vont mal se passer par la suite. Épisode vraiment sympa. On retrouve très très bien l'ambiance de la série. Hein. Franchement, les dialogues, c'est.
J'ai peut-être raté, mais j'ai l'impression que tu n'as pas donné les crédits.
Ah, si, je les ai donnés tout au début.
Ah pardon.
J'ai même précisé jusqu'au coloriste. Ouais, voilà. Donc, mais en tout cas, on retrouve vraiment le ton de la série quand les personnages parlent. C'est comme dans X-Files saison 10. On a vraiment l'impression d'entendre les voix, au fait, de voir ça à l'écran. Alors les dessins sont pas géniaux, ça c'est sûr que c'est le point noir. Ce que j'ai pas dit par contre, c'était que la série est publiée chez Boom. Ça je l'ai pas dit. Voilà. Donc mais bon, dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Donc pour les fans de la série, et uniquement j'ai envie de dire pour les fans de la série, hein, sinon ça n'aura pas grand intérêt de lire ça. Vous allez être un peu largué en plus. Pour les fans de la série, c'est un très bon complément, même si on regrette, à l'inverse d'X-Files, que ce soit pas une suite, mais que ce soit simplement un truc qui fait le pont. Donc du coup, bon bah, on est un petit peu limité niveau intrigue. Hein. On se doute bien qu'on n'aura pas des trucs de ouf non plus. Bon, bah enfin voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ils en sont rendus quand même déjà au 19e numéro, donc c'est du solide. Voilà, j'ai envie de mettre un bon bail, un bail honnête, justement, tiens, à Sons of Anarchy.
C'est marrant parce que quand on regarde tout ce qu'on a chroniqué en indé, et il y en a un paquet, j'ai pas fait le compte, mais il y en a un paquet, on a de la science-fiction, de l'exploitation de licences, ou de la chronique de vie, et on a un super-héros.
Ouais.
Et tout est relativement bon, enfin à part le Frankenstein qui t'a un peu refroidi.
Et que j'ai compté dans les exploitations de licences, puisque dérivé de l'univers d'Hellboy, hein, mais...
Ouais. Moi, j'ai fait vraiment dans l'exploitation de licence série télé et animé, quoi.
Et t'as lu Chrononauts.
Entre Tortue Ninja, X-Files et puis Sons of Anarchy, oui, et puis Chrononauts, bien sûr. Bon, ça, c'est en
mais
plus.
Mais c'est vrai que vraiment, le super-héros est finalement assez peu représenté, en tout cas dans nos choix indés de cette semaine. Et on en a fait un paquet, hein. 7, 8, 9, 10, 11. 11 chroniques indés. Et voilà, une seule qui traite vraiment du super-héros.
Bah, de toute façon, si on veut du super-héros indé, généralement, maintenant, on va chez Valiant, hein, c'est un petit peu devenu leur... c'est un petit peu le Marvel DC de l'indé, quoi, Valiant. Donc, bon, après, il y a toujours Invincible, mais finalement, sur le marché de l'indé, il n'y a pas tant de super-héros que ça.
On a du Savage Dragon, on a des choses comme ça, mais c'est vrai que cette semaine,
c'est des vieux trucs, mais...
finalement, ouais. Voilà. Assez marrant. Bref, passons au TP de la semaine pour notre partie indé. On démarre avec du Dark Horse, la Angel & Faith Season 9 Library Edition. C'est du hardcover et ça reprend les deux premiers TP, en fait. Voilà, une édition un petit peu de luxe des deux premiers TP de cette série Angel & Faith Season 9. Ça vaut $30, bah, pour les fans, hein, de cet univers, le Whedonverse, hein, comme on appelle ça, avec notamment Christos Gage au scénario. On a aussi du Mac Mignola, enfin en tout cas de l'univers de Mac Mignola, avec la sortie du 10e tome de BPRD, Hell on Earth. Ça s'appelle The Devil's Wing, c'est au prix de $20 et ça reprend les épisodes 120 à 124 de la série BPRD. Toujours chez Dark Horse, le 5e volume en hardcover de Baltimore, The Apostle and the Witch of Arju. Ça vaut $25 et c'est donc les deux mini-séries Baltimore, Witch of Arju et The Wolf and the Apostle, mini-séries en deux, qui sont collectées dans ce hardcover. Voilà, toujours encore une fois dérivé de l'univers de Mignola. Et pour terminer avec l'univers de Whedonverse, Buffy the Vampire Slayer, Painhole to Painhole Season 8 and 9 TPB, qui va justement revenir un petit peu sur tout la partie graphique, hein, qu'on avait dans la saison 8 et la saison 9 de Buffy the Vampire Slayer, avec des explications, des covers, etc., des choix faits pour la partie artistique. Ça vaut $25. On va dire plutôt un artbook à réserver aux fans de cet univers. Enfin, chez Dark Horse, nous avons aussi du Conan, avec le 29e volume de Chronique de Conan qui reprend Conan le Barbare 224 à 232, qui était sorti précédemment chez Marvel, au prix de $20. Et puis, nous avons aussi les Chroniques de King Conan, volume 10, avec les Conan the King 46 à 50, toujours tirés du même univers, c'est au prix de $20. Et Dark Horse, très prolifique en termes de TP cette semaine, nous sort aussi Deep Gravity, une mini-série de SF écrit par Gabriel Hardman et Corina Becco, qu'on a retrouvé hein, cette semaine sur leur nouveau projet Invisible Republic. Ça vaut $15. Je sais pas si tu avais lu cette mini, Bruno.
J'avais lu le premier épisode et ça m'avait pas convaincu. C'était pas très très original, effectivement. Ça faisait penser un petit peu à l'univers d'Avatar, mais bon, peut-être que sur la fin ça devenait un peu plus intéressant.
En tout cas, toute la mini est collectée pour $15 dans ce TP. Voilà ce qu'on avait chez Dark Horse. Reste la Usagi Yojimbo Saga Volume 2, qui sont un peu des espèces de gros omnibus hein, de Usagi Yojimbo qui sont sortis pour fêter les 30 ans. Ça vaut $80. Et là, vous avez le volume 3, 7 à 30, et le one-shot Green Persimmon. Voilà, ça fait à peu près 700 pages pour Usagi Yojimbo si vous avez envie de découvrir cet univers. Chez IDW, nous avons Rocketeer The Complete Adventures qui va justement collecter tout ce qui était sorti chez IDW ces derniers temps, avec notamment du Rocketeer de Dave Stevens. Ça vaut $20. Et puis nous avons Dragonlance Chronicles, premier TP de ces 8 épisodes de cette série Dragonlance, $25. Le TP s'appelle Dragons of Autumn Twilight. Chez Image maintenant, Deadly Class volume 2, $15 pour les épisodes 7 à 11.
Un bail.
De série de Rick Remender et Wesley Craig. Le volume 3 de Lazarus aussi, de Greg Rucka et Michael Lark, avec les épisodes 10 à 15. $15 aussi. Et puis, enfin, le méga bail de Bruno de cette semaine en TP. Ça vaut $15. C'est la mini-série Revenge.
Ah, Revenge, oui. Oui, une série assez jusqu'au boutiste et qui était assez fun, effectivement. Voilà.
Jonathan Ross et Ian Churchill en tandem sur
très
cette
violent.
Mini-série.
Ouais, très violent. Violent.
Bah, pas mettre entre les mains de jeunes enfants, s'il vous plaît. C'est quand même assez crade.
Assez crade, oui.
Et sur ce, nous allons passer maintenant à notre partie Marvel. On démarre avec toi, Bruno. Tu
oui
parles de l'univers de Star Wars avec la sortie du deuxième numéro de Princess Leia.
Et oui, un deuxième numéro qui débarque très peu de temps après le premier. Mini-série, hein, je le rappelle, qui est écrite par Mark Waid avec Terry Dodson au dessin. Un Terry Dodson plutôt bon, hein, c'est-à-dire que bien meilleur que ce qu'il a pu faire sur Teen Titans Earth One qu'on a vu récemment. Pour un récit où en fait on va suivre la princesse Leia qui essaye par tous les moyens de protéger et de récupérer tous les survivants d'origine d'Aldorand, puisqu'après la destruction de sa planète, elle a peur que l'Empire envoie les troupes pour tuer jusqu'au dernier les membres de son peuple.
Et, donc, c'est toujours dans cette période entre les épisodes 4 et 5.
Entre le 4 et 5, effectivement. Et donc là, elle s'est un petit peu barrée de la rébellion en cachette, puisque la rébellion lui interdisait d'agir, puisque pour elle était trop importante pour aller se mêler justement à des choses aussi qui pourraient la mettre en danger. Mais elle, vraiment, c'est le danger qui lui donne envie de faire un peu d'aventure et d'aller aider son peuple. Et
donc elle va faire. C'est fou comme ça me rappelle la série de Brian Wood de chez Dark Horse, hein, le dernier titre date Star Wars.
Ouais, c'est vrai. Ouais, elle était pas mal mise en avant, effectivement.
Qui était placée à la même époque. Ouais. Et où elle, finalement, elle aussi, elle devait pas agir parce que c'était la princesse, etc. Et finalement, elle se barrait en loose day avec Han Solo et Luke Skywalker, quoi.
Bah là, elle se barre en loose day avec une membre de la, une des survivantes, justement, d'Alderaan, qui est pilote de vaisseau. Et voilà, ce qui est sympa, c'est de voir un peu comment cette relation entre ces deux personnages va évoluer, puisque de base, la pilote n'était pas vraiment une pro princesse Leia, donc est-ce qu'ils vont finir par s'apprécier, ce sera sans doute, on verra à la fin du comics. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce numéro, en fait, la princesse Leia décide de retourner, enfin, d'aller sur la planète Naboo pour sauver en fait un groupe d'Alderaaniens qui habitent là-bas. Et c'est l'occasion du coup de revenir sur cette planète qui rappellera aux fans de la nouvelle trilogie, celle de la menace fantôme et compagnie. À quoi ressemble Naboo. On revoit même quelques petites scènes où on voit des Gungans. Donc voilà, c'est assez amusant. Mais c'est
de quoi tu parles, Bruno? De quelle trilogie tu parles?
Mais il n'y a pas de Jar Jar Binks hein, présent pourtant dans ce numéro. C'est pas mal, c'est assez rythmé. C'est un peu moi j'ai un peu du mal à comprendre cette envie qu'elle a absolument d'aller sauver les gens qui sont éparpillés aux quatre coins de l'univers. Parce qu'à mon avis, l'Empire a autre chose à foutre que d'aller juste éliminer quelques survivants sur d'autres planètes. Parce qu'après avoir perdu leur étoile noire, et avec la montée de la rébellion. Mais voilà, mais en même temps, elle se sent investie d'une mission, donc c'est plutôt sympa à suivre son histoire. Voilà, c'est pas non plus hyper renversant. Pour moi, c'est un bon check-it, c'est plaisant, mais voilà, pas un chef-d'œuvre.
On continue avec The Amazing Spider-Man 16.1. Je suis étonné que tu n'aies pas été le lire, Bunny, puisqu'il s'agit du retour de Jerry Conway.
Et ouais, mais bon, c'est honnêtement, ça m'a saoulé. Voilà, Jerry Conway ou Gary Conway, d'ailleurs, je sais jamais comment on le prononce. Bon, c'est sympa de le revoir, mais honnêtement, ça avait l'air très 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 lourd, très très trop rétro pour moi. Enfin bon, enfin voilà, ça sans plus quoi. Je le dirai certainement quand ça sortira en français, en relié. À mon avis, ça va bien faire l'objet d'un kiosque. Donc
à moins que ma review te donne envie. Peut-être Carlo Barberi est au dessin, Juan Blasco est à l'ancrage et Israel Silva à la colorisation. Donc c'est situé après Spider-Verse. On a le Amazing Spider-Man 16 qui est sorti cette semaine et le 16.1 en même temps. On aura donc 16.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 qui formeront un arc en entier, un arc qui s'appelle Spiral. Et on est vraiment post... J'allais dire Secret Wars, pardon, Spider-Verse, le lapsus, voilà, le lapsus qui veut dire la même chose, finalement. Et du coup, Spider-Man revient de ses aventures dans le multivers, hein, finalement. On me dit que mon micro crachote, c'est peut-être dû à mon fil sur lequel j'ai roulé sans faire exprès tout à l'heure. Spider-Man est revenu de ce multivers et d'avoir rencontré toutes ses versions de lui-même. Et donc, il a besoin de reprendre pied un petit peu avec la réalité, essayer de voir que, heureusement, la vie n'est pas que des aventures grandiloquentes. Et il va tomber un peu par hasard, bon, c'est le hasard qui fait bien les choses, comme d'habitude dans Spider-Man, avec toute une équipe de flics qui s'apprête à envahir un entrepôt dans lequel se cacherait peut-être Tombstone. Oui, on revient à Tombstone, hein, un des fameux vilains qu'affectionnait Jerry Conway.
Bah, qu'il a créé, hein, je crois, hein. Il a créé dans Spectacular Spider-Man et il avait aussi créé Hammerhead plutôt dans Amazing, et je crois savoir que vu qu'il est sur la cover, il y aura aussi du Hammerhead dedans.
Bah, en tout cas, pas dans ce numéro-là.
Pas dans ce numéro-là.
On a
tu
vraiment...
confirmes qu'il est bien sur la couverture, je crois.
Non, c'est Tombstone. Ah oui, si, pardon, il y a Hammerhead, oui, pardon, oui, à droite. À droite,
têtes,
à droite, oui, à droite, en effet. Et donc, il va tomber sur le Capitaine Watanabe, qui a été créé par Dan Slott, et c'est ça qui est plutôt malin de la part de Jerry Conway, c'est qu'il a utilisé tous les personnages récents en mêlant un petit peu cet aspect gangouard de l'époque, toute cette partie dans Spectacular Spider-Man qu'on avait dans les années fin des années 80, début des années 90, où il y avait toutes ces guerres des gangs avec Hammerhead qui veut prendre le pouvoir, etc. Tout est relatif, Tombstone qui veut prendre le pouvoir, tout est bien expliqué puisque le Kingpin est parti en Europe et donc ça a laissé un vide et chacun veut essayer de s'emparer un petit peu du marché de New York, quoi.
Mais il est vraiment parti en Europe, il est plus à Shadowland, là, c'est fini ça, tout ça.
Ah bah non, il s'était fait éjecter dans Superior Spider-Man.
Rappelle-toi que
Superior Spider-Man
avait détruit Shadowland.
Il a même simulé sa mort.
Effectivement. Ah oui, d'accord, oui, ok.
Donc, Spider-Man intervient, arrive à arrêter Tombstone, mais malheureusement, pour une petite technicalité qui fait que le mentor du capitaine Watanabe a été shooté et est dans le coma, n'a pas pu révéler la source qui lui avait donné l'info comme quoi Tombstone se cachait dans cet entrepôt, et finalement Tombstone est relâché. Et ce qui ne plaît vraiment pas au capitaine Watanabe, rappelons qu'elle est aussi The Race. Ce super-héros qui avait aidé notamment Carly Cooper.
Ah oui, d'accord.
Enfin, super-héros, si on veut. En tout cas, cet alter-ego, ouais, ce vigilante qui a aidé Carly Cooper à prouver que Spider-Man était en fait Doc Ock. Donc voilà, ouais. On a vraiment tous ces trucs assez récents et on a même l'intervention, oui.
Qui fait vachement penser à The Scourge qui avait été créé. Je me demande si ça avait pas été créé par Conway en plus. Je ne sais plus, mais tu sais, cet ancien flic qui se déguisait en. Bah, en fait, en redresseur de tort et qui tuait les vilains, quoi.
The Scourge. Enfin,
ouais, The Scourge. Of the Underworld, d'ailleurs, il s'appelait, je crois.
Ah, ça me dit vraiment quelque chose, mais...
Il y avait le potiron aussi.
Moi, j'ai le. Oh putain. J'ai le design de The Shroud qui me revient, mais pas de The Scourge, malheureusement.
Non, à ce moment. Ouais, c'est pas le même. Non, mais enfin, bref, parenthèse.
Et puis donc, c'est surtout qu'elle va avoir des nouvelles infos, Race, et elle va donc à nouveau envahir un entrepôt. Ces infos qui m'ont été données par, n'autre que, Mister Negative.
Ah oui, oui.
C'est un négatif qui est là. Franchement, on a vraiment ce sentiment de Spectacular Spider-Man de l'époque où on avait des histoires assez vraiment basées là-dessus, avec un Spider-Man qui se retrouve un peu au milieu, qui essaye de faire le bien. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est bien écrit, c'est propre.
Pas trop vieillotte l'écriture quand même. Elle est
moi en tout cas non, ça m'a pas choqué quoi. Vraiment,
t'as vérifié les pages sentaient pas le moisi? Bah non, tu l'as lu en numérique peut-être.
J'ai lu en digital effectivement.
Ah, oui,
mais non, c'est moi j'ai trouvé ça très bon. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir ce 16.1. Je voulais voir ce que faisait Jerry Conway. J'ai pas forcément envie de lire du Dan Slott. J'avais envie de lire autre chose.
Et moi, je me demande quand même quel âge il a. Quel âge il peut avoir maintenant? Parce qu'il a commencé très jeune, mais alors.
Mais quand même. Sur Wikipédia nous le dira. Mais vraiment, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Les dessins de Barbery sont très bons. Non, vraiment, c'est ça, ce petit côté un peu old school avec Jerry Conway, évidemment, mais c'est très léger. C'est très léger et surtout, bah, ce sont des histoires récentes. C'est pas du vieux qu'on aurait déjà lu, et avec des personnages du cast récents. C'est-à-dire que
est-ce qu'il y a Robbie? Parce que Tombstone et Robbie, ils avaient quand même une sacrée relation.
Là, pour moi, il n'y a pas Robbie. En tout cas, il est né en 52, Conway.
Quand même.
Ah, c'est pas si vieux que ça.
C'est vrai. Bah, il a commencé à 16 ans, hein, je crois. C'est quand même extraordinaire. Écrire du Spider-Man à 16 ans à l'époque, c'était possible. Ah là là.
Donc voilà, moi j'ai envie de mettre un petit bail à cet arc et j'irai voir la suite vraiment. J'ai trouvé ça très bien écrit, très propre. Peut-être parce que je suis un vieux lecteur, peut-être parce que j'ai connu cette époque et que ça m'a plu d'avoir des histoires qui ont un peu ce feeling sans pour autant être vraiment que de l'ancien ou basé dans l'ancien. C'est un arc qui se passe dans le présent. Donc moi je trouve ça très bien, un bail pour moi. On va finir notre partie Marvel. Avec toi Bruno, tu vas nous parler de Black Vortex, le crossover qui secoue All New X-Men et Guardians of the Galaxy en même temps. Ouais. Et bah, tu commences par All New X-Men 39.
Ouais, All New X-Men 39, écrit par Brian Michael Bendis avec au dessin Andrea Sorrentino. La partie 5 de Black Vortex, où on a déjà plusieurs membres justement des X-Men du passé et Gamora qui ont choisi de se faire contaminer par le Black Vortex pour développer leur pouvoir cosmique. Et du coup, ils ont un petit peu pété les plombs depuis qu'ils ont été transformés. Donc du coup, les autres personnages qui les côtoient, que ce soit les jeunes X-Men, les gardiens et compagnie, essayent de les remettre dans le droit chemin. Mais ils sont également poursuivis par Mr. Knife, qui est donc, on le rappelle, le père de Star-Lord, et également Mr. Knife qui s'est associé avec Sane, le fils de Thanos. Donc voilà, tous ces personnages un petit peu qu'on a pu croiser dans Legendary Star-Lord depuis le début de la série. La partie précédente, ça s'était terminé avec l'arrivée de Cyclops et de son père qui venait justement prêter main forte à ses anciens amis. Et donc là, ce numéro, c'est vraiment un numéro un petit peu d'exposition où on va voir comment Cyclops retrouve, enfin comment se passent les retrouvailles avec ses anciens potes X-Men. Et voilà, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt très joli même, hein, ce que fait Sorrentino. Par contre, c'est un petit peu, c'est du Bendis quoi, c'est un petit peu lent. Il se passe pas grand-chose dans ce numéro. Donc, mis à part le côté vraiment sublime des dessins, on a très très peu d'action. Donc un numéro, on va dire un bon check-it, ce All New X-Men 39, ce qui n'est pas le cas du Guardians Team-Up numéro 3 qui
lui... Alors avant que t'ailles plus loin, donc Marvel a décidé de vous faire une autre série hebdo sans que vous le sachiez.
Ouais, c'est ça.
3 semaines, 3 Guardians Team-Up.
Ouais, c'est un petit peu la folie pour Guardians Team-Up, un titre qui va pas durer longtemps en plus, puisque il va s'arrêter avant le début de Secret Wars. Voilà, on a l'impression que c'est vraiment un titre qui a été créé uniquement pour pouvoir conclure certaines petites histoires concernant les gardiens. Donc là, c'est scénarisé par Sam Humphries avec au dessin un Mike Mayhew qui est vraiment, mais alors vraiment pas inspiré. C'est-à-dire qu'on a vraiment des j'ai beaucoup dit vraiment, mais c'est très moche. Il y a des planches qui sont horribles. Et là, on va s'intéresser plus côté cri, puisque justement Gamora, Beast et Angel, qui ont été transformés par le Black Vortex, ont décidé d'attaquer la planète des cris pour récupérer justement le Black Vortex. Et là, c'est la grosse bagarre avec la grande question: est-ce que Ronan va utiliser le Black Vortex pour développer ses pouvoirs? C'est super relou et c'est pas très bien écrit aussi. Et, et c'est moche en plus. Donc voilà, je hyper déçu par ce numéro. On pourrait clairement s'en passer, hein, vu ce qui se passe dedans. C'est pas super passionnant. Et voilà, je pense que la suite sera peut-être un peu plus intéressante dans le Gardien de la Galaxie numéro 25, le proper, quoi. Mais en tout cas, ce numéro pour moi, c'est vraiment un tout petit check-it limite pass.
C'est marrant, comme Black Vortex, ça a l'air pas passionnant du tout en fait.
Bah pour le moment, c'est vraiment en dents de scie. Il y a 2-3 épisodes qui étaient sympas. Ça vaut surtout pour les dessins de Sorrentino sur les parties New X-Men. Mais sinon, effectivement, c'est vraiment pas très original et. Et puis ça, c'est pas très bien écrit. C'est des ficelles vraiment très très grosses. Donc, je sais pas comment ça va se terminer, mais c'est ce qui est censé conclure quand même le run de Bendis sur les Gardiens. Donc, j'espère que ça va quand même bien se terminer en apothéose.
Bon, il a déjà détruit les Gardiens. Comment veux-tu que ça se termine bien?
Bah, faut voir. On verra bien. Il reste encore 5 numéros pour ce crossover.
Eh ben, c'est pas prêt d'être fini.
Même plus, non. Qu'est-ce que je raconte? Il reste 8 numéros. Voilà, c'est pas fini.
Allez, on passe au TP de la semaine chez Marvel. Alors, j'espère que vous avez de l'argent, car beaucoup d'omnibus, notamment le, vous en doutez, hein, cette saison, Avengers, par Buzik et Perez. Premier omnibus, c'est du hardcover, ça vaut $125, évidemment. Avec les Avengers, donc de 1998, la période Buzik et Perez, numéro 1 à 23, le numéro 0, le numéro 1 qui était en rough cut, c'est-à-dire juste les crayonnés, ainsi que des séries qui étaient crossover en même temps quand il y avait crossover, Iron Man numéro 7, Captain America numéro 8, Quicksilver numéro 10, ainsi que les Avengers Annual 98-99 et la maxi-série Avengers Forever. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cet omnibus.
C'est une partie de ce qui est publié par Panini là dans les Marvel Icons, je crois, récemment.
Je crois, oui, c'est ça, oui.
Là, c'est un gros omnibus. Là.
Sachant que ça vaut cher, mais vous en allez en voir pour des heures et des heures de lecture parce que c'est hyper méga verbeux, hein, Benny.
Eh bien oui, il avait coupé son micro. Bien sûr que c'est méga verbeux.
C'est $125, mais vous pourrez compter chaque dollar avec chaque page que vous tournez parce que vous en avoir pour votre argent, vraiment, en termes de temps de lecture. Autre omnibus Avengers. Il en faut un deuxième. Il s'appelle donc Avengers Omnibus tout court. C'est aussi du hardcover. Ça vaut $100 cette fois-ci. Et c'est la vieille série Avengers, donc de 1963, avec les épisodes 31 à 58, les deux premiers annuals, le X-Men 45, puisqu'il y avait un crossover entre X-Men et Avengers de l'époque. Et puis, Not Brand Heck, numéro 5 et 8. Tout ça réuni dans cet omnibus. C'est principalement du Roy Thomas au scénario. Vieille époque, avec notamment la première apparition d'Ultron, entre autres, la première fois qu'était racontée la mort de Bucky. Voilà, il y avait pas mal de choses
d'arriver. Tu as dit première apparition d'Ultron. Ne serait-ce pas quelque chose dont on va parler bientôt en plus?
Bah, au moment où sortira cet épisode, si les gens l'ont écouté en direct, ils en ont déjà entendu parler. Puisque c'est le sujet de la bibliothèque du Comic City de demain, mais que vous entendrez hier, oui, au moment où vous écoutez cette émission.
Non, exactement.
Tu casses le time stream.
Ouais, comme Chrononauts, je suis un fou.
Et comme dans le All New X-Men, vous verrez.
Allez, on termine avec les choses chères, avec le Marvel Masterworks Invincible Iron Man, numéro 9, $75 pour les épisodes 54 à 67, notamment la première apparition de Thanos dans ces épisodes.
Ah oui, avec les frères de sang, là.
Ouais.
Je sais plus
Thanos,
comment ils
de Drax, de Moondragon. Il y avait beaucoup de premiers. C'était l'époque où Jim Starlin.
Ah, Drax, il était vraiment différent du Drax Batista, hein, à l'époque.
Après, dans les choses moins chères, parce qu'il y en a heureusement chez Marvel, on a le Deadpool's Art of War numéro 1-4 qui sort en TP. C'est écrit par Peter David avec Scott Koblish au dessin. C'est au prix de $13. La mini-série en 4 est donc collectée dans ce TP. Et puis, même si c'est sorti en français déjà, pour ceux qui veulent les versions un peu de luxe, on a le Superior Spider-Man qui termine avec son troisième hardcover, $35, les épisodes 17 à 31, ainsi que l'annual 1 et 2. Voilà pour les TP de Marvel de cette semaine. Et on va s'empresser de passer maintenant à DC avec Superman 39. Superman 39 qui est sorti cette semaine, c'est Jeff Jones au scénario, John Romita Jr. au dessin, Klaus Johnson à l'ancrage. Et Hi-Fi en colorisation, on a ce Superman qui va devoir gérer avec sa mortalité. Hein. Rappelons qu'il a utilisé son Super Flare le mois dernier. Et donc il est mortel pendant 24 heures et qu'il avait révélé son identité secrète à Jimmy Olsen. Chose qui, pour moi, n'avait pas été faite, hein, je crois, en tout cas pas de façon très récente.
Bah, à part, comme je disais l'autre fois, ça avait été vu dans Countdown, hein, il faisait dans Countdown, il y avait un épisode qui se terminait comme ça, où il craquait la chemise devant Jimmy Olsen, qui n'en venait pas. Et je me demande bien comment ils ont retconné ça en même temps, bon.
Hein, ouais, Countdown, c'est comme la première trilogie, enfin, la nouvelle trilogie Star Wars, ça n'existe pas.
Bah non, mais de toute façon, il y a beaucoup de trucs qui n'existent pas, mais comme on sait pas ce qui a existé et ce qui n'a pas existé, de toute façon, dans le nouvel univers, voilà. Prenez ce que vous voulez, et puis ce qui est pas bon, bah mettez-le de côté. En gros, c'est ça.
Mais malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un épisode qui est très sympathique à lire. C'est un one-shot, voilà. C'est un one-shot où Jimmy va devoir comprendre que Clark Kent, c'est Superman. Et Superman, ou Clark Kent, en tout cas, va devoir faire face avec sa mortalité, le fait de s'ouvrir le bras, de sauver... De se couper avec un morceau de papier, ce genre de choses. Ça paraît bêta dit comme ça, mais c'est plutôt pas mal raconté.
Mais une situation telle que celle-là aussi est pas tellement nouvelle. Ça rappelle évidemment Superman 2, hein, le film, voilà, où il se retrouvait dans cette situation sans pouvoir, et puis il expérimentait la vie d'être humain, avant de les récupérer, bien entendu, pour buter la gueule des méchants. Mais... Bon, là par contre, c'est une situation qui risque de se renouveler s'il utilise cette espèce de super rayon, super force. En même temps, on se doute bien qu'il va pas l'utiliser non plus tout le temps, puisque c'est un truc quand même super destructeur. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode? Bah moi, y a beau dire, ça me rappelle énormément le run de Straczynski sur Spider-Man, même si c'est pas du tout Straczynski au scénario, mais on a la même construction, c'est assez bizarre. C'est dans le premier arc, il croisait une espèce d'être dans l'ombre, on savait pas trop qui c'était, et puis ça questionnait vraiment ses pouvoirs. Et puis ensuite, rappelez-vous, il révélait son identité à Tante May. Et là on a un épisode où voilà, un épisode de transition, comme tu dis, un épisode assez calme, où Superman vient de révéler son identité secrète, plutôt Clark Kent vient de révéler son identité secrète à Jimmy Olsen, et du coup on se retrouve un petit peu dans le même schéma. C'est assez assez marrant. Et
comme tu dis, hein, ça rappelle Superman 2, mais rappelons que Geoff Johns avait commencé sa carrière en tant qu'interne, enfin que stagiaire pour Richard Donner, donc.
Et je viens de me rendre compte qu'en plus les numéros sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est dingue, mais c'était aussi, il commençait à arriver sur Amazing Spider-Man 30, puisque c'était un volume 2 à l'époque, Straczynski, et là, John Romita Jr., je crois, est arrivé, il est pas arrivé au 30, il est arrivé peut-être juste après. Mais en tout cas, les numéros coïncident pas mal, quoi, bizarrement.
Ouais, mais c'est le dernier numéro de Geoff Johns, puisque le numéro 40 sera un one-shot écrit par John Romita Jr., et puis le numéro 41 sera une nouvelle direction par un nouveau scénariste dont j'ai malheureusement oublié le nom.
Bah ouais, il y a un nom assez compliqué quand même. Un nom en trois parties.
Ouais, Wang.
Ouais, enfin voilà.
Oh là là.
Mais, hein, voilà. Toujours est-il
Jin
que...
Luen Yang.
Yang, voilà. Ouais. Alors ce sera peut-être très bon, mais je regrette vraiment le passage éclair de Geoff Johns là-dessus. C'est un peu comme Aquaman. C'est dommage qu'il reste pas plus longtemps sur les titres.
Aquaman, il restait 25 numéros quand même.
Il avait posé des choses pareilles qu'il n'a pas achevées. Là, c'est pareil. Il y a cette espèce d'étrange personnage dans l'ombre. Bon. Alors, gageons que le scénariste suivant sera très bon et utilisera ça, quoi. Mais voilà, gageons.
Ah, le prochain scénariste, en tout cas, lui fait une coupe de cheveux. On verra ensuite.
En tout cas, un bon numéro, j'ai trouvé. Moi, j'ai passé un agréable moment.
Voilà, c'est agréable. C'est pas un numéro mémorable, c'est juste un numéro agréable. Et finalement, des fois, ça fait du bien d'avoir des one-shots agréables à lire, une petite histoire relativement touchante, mais voilà, qui
bah, changera. Et surtout, qui change un petit peu du Superman qui affronte des gros méchants à tire-larigots.
Oui, parce que là,
il affronte
quand même le vent.
Il affronte le vent, il affronte un gars qui a pété un peu les plombs, enfin voilà. Enfin
non,
voilà, mais
c'était dit genre un peu trash, je me moque, mais non, enfin.
Non mais enfin on a du Clark Kent, quoi, en fait. Voilà, c'est surtout ça, quoi.
Ouais, moi j'ai bien aimé cet épisode. Ça ne changera pas la face du comic, ça ne changera pas la face de Superman. Néanmoins, c'est un bon épisode.
Ouais, pareil, j'ai beaucoup aimé.
Donc bah un petit bail.
Bah, un bon bail pour moi, un bon bail, un bail pareil, un bail positif, plein d'espoir et de chansons et de fleurs dans les yeux.
Allez, double review de la part de Bruno, tu vas nous parler de deux titres Bad Girl.
Mais il l'a lu Bruno aussi, le Superman?
Non.
Ah bon, d'accord, ok.
Voilà, je vais vous parler de Batgirl numéro 40, qui est
Yeah!
la conclusion du premier arc de cette nouvelle version de Batgirl. Cet épisode est titré Ghost in the Call, puisque on va s'intéresser justement à cette intelligence artificielle qui est basée justement sur le cortex cérébral de Barbara, qui finalement a réussi à atteindre un peu une sorte de conscience et à pirater tous les systèmes informatiques de Gotham et de Burnside, et tout particulièrement aussi le fameux site de rencontre Hook dont on nous parle depuis le début de ce run. Et en fait, ça va être justement une lutte entre deux Barbara, la Barbara qui était époque juste après Killing Joke, après être dans fauteuil roulant, et la Barbara moderne, puisqu'on a une Barbara énervée et une Barbara qui a mûri. Et c'est la Barbara énervée qui correspond justement à cette intelligence artificielle, pirate Hook pour pouvoir, un peu comme dans Captain America Winter Soldier, utiliser les informations personnelles des gens pour déterminer si oui ou non ils seront bons ou méchants, et les éliminer voilà, en utilisant une sorte de satellite qui va tout détruire. Donc ça, c'est vraiment le grand climax de cet arc.
J'ai quand même cru que t'allais nous faire une méga vanne en disant que le pirater Hook avec le capitaine Crochet. Mais
oui, ça aurait pu. Mais non, c'est bien écrit, c'est bien rythmé, c'est plutôt sympa de voir l'évolution du personnage de Barbara, surtout vis-à-vis de l'état dans lequel elle était quand elle était vraiment très énervée, quand elle était en chaise roulante. Et là, on voit qu'elle a pas mal mûri et qu'elle a réussi à se faire tout un groupe d'amis, de nouveaux personnages qui vont l'aider justement pendant cette lutte finale contre cet ordinateur. Et voilà, c'est très plaisant, très sympa, très graphiquement, c'est très joli. Et voilà, il y a un petit twist à la fin avec justement sur peut-être une référence à Oracle. Oracle va peut-être apparaître dans le futur de Batgirl. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ce premier arc vraiment très plaisant, et surtout la partie graphique, hein, aussi, qui m'a plu, qui est assez originale et très punchy. Voilà, après j'enchaîne avec le Batgirl Endgame, qui lui est en fait un tie-in à la saga Endgame qu'on a actuellement dans le run de Snyder sur la série Batman principale, puisque on a des numéros spéciaux qui sortent pour l'occasion. Il y a déjà eu un Detective Comics Endgame, là il y a le Batgirl Endgame, et donc on a Barbara qui va essayer de sauver un groupe de personnages de gens qui viennent de Gotham et qui essayent d'aller à Burnside, donc qui est le New Jersey un peu de Gotham. Et pour cela ils essayent de survivre face aux attaques incessantes de la population qui a été clownisée par le Joker. Et dans ce numéro, c'est écrit par Cameron Stewart, et avec au dessin, on a Bengal, donc un artiste français qui réalise vraiment un très très beau numéro. C'est vraiment très sympa. En plus, c'est assez original, puisque... Enfin, c'est original. Ça a été déjà vu plusieurs fois, mais c'est un numéro qui est sans dialogue. Mais la narration est vraiment très efficace. Batgirl est vraiment très... Enfin, très expressive en fait. Il y a des scènes qui sont vraiment qui donnent le sourire. Pourtant, on est quand même dans un état qui est assez catastrophique pour la ville de Gotham. Et donc voilà, c'est un numéro qui se lit très vite, hein, qui est très rythmé, et dont encore une fois la partie graphique est peut-être la partie la plus intéressante. Mais donc voilà, c'est une bonne lecture, et c'est plus intéressant que. Enfin, presque que la série Batman actuelle. Donc un bon bail pour ce Batgirl Endgame, et un petit bail pour le Batgirl 40 qui était très sympa.
Est-ce essentiel néanmoins à Endgame ou pas?
Alors, c'est
ou
pas est-ce du tout peut... essentiel. Hein. C'est vraiment
d'accord.
C'est vraiment un petit truc à part. Voilà, on se rend compte qu'en fait il y a des personnages aussi qui essayent d'agir pendant cette invasion des gens qui sont jokerisés.
On va terminer notre partie d'essai avec toi, Benny. Tu vas nous parler du 50e épisode de Batman Eternal.
Oui, alors 50e épisode de Batman Eternal, toujours par cette équipe créative que vous connaissez par cœur. Je sais même pas si il est utile de rappeler toute l'équipe, mais en tout cas là c'est un épisode essentiellement écrit par Jeff Tannion IV, avec des dessins. Alors par contre la partie graphique, j'essaie de retrouver la page des crédits. Ils l'ont mis où, du coup, cette page?
Dans ton cul.
Non, ça y est, c'est bon, je l'ai.
Classique.
C'est Alvaro Martinez qui signe les dessins de cet épisode. Donc, vous connaissez le topo, c'est le bordel à Gotham. Le commissaire Gordon s'en est sorti en même temps. Rappelez-vous, hein, le commissaire Gordon, on le voit dans Endgame, donc on est con en plus de douter qu'il va s'en sortir à la fin d'Eternal, puisque de toute façon, on sait qu'il est toujours là après. Donc le commissaire Gordon est récupéré par Bullock et puis par Jason Bard, qui visiblement a vu la lumière et s'est rangé du côté des bons et est bien décidé à aider Gordon maintenant. C'est le boxon, il y a un petit peu du rich fifi de tous les côtés. Batman essaye bien sûr dans cet épisode de trouver enfin qui est derrière tout ça, qui a tout machiné depuis le début, qui a tout orchestré pour que les choses se passent de la façon dont elles se sont passées à travers Batman Eternal. Et on le sait enfin dans cet épisode, qui est le grand mastermind derrière tout ça. Et ma foi, c'est très bon, puisque je ne l'avais pas vu venir, donc Bunny was wrong. Je pensais totalement à d'autres personnes éventuelles, et c'est pas ça du tout. Donc c'est cool, parce que j'ai été vraiment surpris par la révélation du grand méchant, et personnellement je trouve ça assez bon, assez énorme en fait. Donc tant mieux, voilà, j'ai vraiment envie de lire la suite. Le final s'annonce quand même assez intéressant, et voilà, je suis vraiment très très content de voir ça, et très bon épisode, c'est pratiquement, grâce à cette révélation, mon coup de cœur de la semaine, quasiment. J'ai passé un bon moment, surtout en voyant qui était ce mystérieux individu. Donc un très très bon bail pour ce numéro 50, et plus que deux, enfin trois, ouais. Puisque le numéro 52 sera un numéro double, me semble-t-il.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, l'équivalent de trois numéros à la louche, quoi.
Eh bien, on va terminer avec la liste des TP chez DC cette semaine. Pas grand-chose, hein, à part des choses qui sortent déjà en français, donc on ne va pas mentionner. Vous avez en version deluxe un truc qui s'appelle Ocean Orbiter. Ça vaut $30. C'est du Warren Ellis. Ce sont deux projets de Warren Ellis. Ocean, qui était une mini-série en 6 épisodes sortie à l'époque chez Wildstorm. Très très bonne mini-série qui se passe sous l'eau, évidemment. Où un inspecteur des armes doit apprendre ce qui se passe dans une station sous la mer. Très très bonne mini-série. Et puis un graphic novel que je n'avais pas lu qui s'appelle Orbiter, qui raconte l'histoire d'un vaisseau qui avait disparu. Le vaisseau a disparu. Il revient sur Terre avec tout son équipage manquant, sauf le pilote. Un vaisseau qui a eu beaucoup de modifications et justement le mystère. Pourquoi il est revenu? Pourquoi ces changements? Et arriveront-ils à tirer quelque chose de la tête du pilote qui est devenu un peu cinglé depuis son retour sur Terre? Voilà deux projets de Warren Ellis qui sont collectés. Donc un graphic novel qui était sorti chez Vertigo, une mini-série qui était sortie chez Wildstorm. Tout ça au prix de $30 dans une version de luxe. C'est tout ce qu'il y avait vraiment de neuf chez DC en TP cette semaine. Le reste étant vraiment déjà sorti en VF. Pas grand-chose du coup. Hein.
Ouais.
Mais encore de la SF.
Oui, c'était vraiment le thème de la semaine.
Et je crois que ça va continuer dans les semaines qui viennent. Hein. Pas mal de SF en ce moment, en partie indé en tout cas. Encore une bonne semaine, hein. Vraiment.
Ouais, de bonnes lectures, ouais.
Bonnes lectures, des choses un peu plus anecdotiques, mais finalement
beaucoup
assez
d'indé,
peu de
passe. Effectivement. Ouais.
Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose de comics. D'ici là, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes, évidemment, ainsi que sur le site. Et puis, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Je crois avoir fait complètement le tour.
Ouais, c'était pas mal.
Ouais.
Rappeler, pour ceux qui écouteraient l'émission samedi matin, que Joe Benitez est en dédicace.
Oui, il sera en dédicace à Bordeaux le lundi 23 mars. Et il fait également une tournée après à Avignon. Il était à Paris aussi, à Pulps Paris, le samedi. Et voilà, après, il retourne aussi en Belgique et il reviendra à Paris après. Voilà.
Voilà, donc vous avez un ou deux jours pour vous organiser pour aller à Bordeaux et voir Joe Benitez.
Oui. Et
à
voir Bruno Pulps. Aussi.
Et Bordeaux, et Bruno aussi, oui.
Et voir Bordeaux aussi, parce que c'est une très belle ville, effectivement.
Voilà, si vous voulez voir Joe Benitez, vous faire dédicacer peut-être des choses.
Et voir Bruno aussi.
un talentueux cosplay de Lady Mechanica, hein, tu nous as dit hier.
Oui, effectivement. Il va venir accompagné d'une cosplayeuse qui sera en tenue de Lady Mechanica, donc ça peut être sympa.
Voilà, rendez-vous à Pulse Bordeaux, et l'adresse est bien sûr au début, hein, dans le petit message sponsoring. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.
Allez, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao. And